Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Idowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Faible taux de participation, achat de conscience, bureau de vote non ouvert à cause de l'insécurité, c'est une partie du bilan du second tour des législatives qui a eu lieu ce dimanche 19 avril 2020 au Mali. Dans ce contexte, certains Maliens s'interrogent sur la légitimité des futurs députés et d'autres craignent un fort taux de contamination au coronavirus suite à la tenue de ces élections. Quel enseignement faut-il donc tirer du second tour des législatives? Le Grand Dialogue pose le débat et nos invités sont Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, Dr Ali Tunkara, sociologue, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Mamoudou Bokoum, journaliste à la radio Kaoural de Mopti et un habitant de Gossi qui a requis l'anonymat, interviendra au cours de cette émission. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Docteur Ibrahima Sango, les élections se tiennent au Mali. Le second tour des législatives, à midi, on parlait d'un taux de pourcentage de 8%. À 16h, le taux était estimé à plus de 16%. À ce stade, quel est le bilan que vous tirez de la tenue de ce second tour des législatives au Mali?
Merci beaucoup et je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent. Et par rapport aux élections législatives, le deuxième tour, ce qu'on a vraiment constaté, c'est que l'organisation s'est un peu améliorée, surtout par rapport à la maladie à coronavirus qui était la hantise des Maliens. On a vu que sur l'ensemble des 43 circonscriptions électorales qui sont concernées, il y a quand même des mesures qui ont été prises dans les grands centres urbains et par rapport au port des masques, par rapport aux mesures d'hygiène. Il faut laver les mains au savon avant d'entrer dans le bureau de vote. Il faut voter, sortir et puis utiliser les gels. Donc par rapport à l'aspect sanitaire, on a vu une grande amélioration. L'organisation aussi, on a vu une grande amélioration par rapport au bureau de vote fonctionnel, par rapport aux membres du bureau de vote. Mais l'équation reste toujours le taux de participation, comme vous l'avez évoqué. Et on sait qu'au Mali, les gens ne votent pas, ne sortent pas beaucoup pour voter. Il y a plusieurs raisons qu'on peut opposer à cela. Il y a les raisons sécuritaires, il y a les raisons par rapport à la communication électorale et aussi la maladie à coronavirus qui s'est invitée dans le débat.
Est-ce qu'à ce stade, le vote a pu se tenir partout dans le pays?
Bon, il y a toujours des localités où le vote n'a pas pu se tenir. Parce que quand on prend le centre et surtout le nord du pays, et la région de Tombouctou, principalement les cercles de Direi, de Gourmararous, de Goundam, et puis dans le centre du pays, les cercles de Bankas, de Koro, il y a toujours des villages et des hameaux qui n'ont pas pu participer au vote parce que ces populations ont peur des représailles des groupes terroristes. Donc il y a toujours des localités où il n'y a pas eu le vote. Mais dans les chefs-lieux de cercles, et partout, dans les 43 circonscriptions et puis dans les 6 communes du district de Bamako, il y a eu les votes.
Et on va y revenir, si vous pouvez nous citer quelques localités dans lesquelles le vote n'a pas pu se tenir. Docteur Ali Tunkara, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Docteur Ibrahim Sango estime qu'il y a eu une amélioration des conditions sanitaires à travers cette organisation du second tour. Est-ce que vous avez constaté une amélioration par rapport aux aspects sécuritaires?
Alors, lorsqu'on écoute les discours officiels, effectivement, entre les deux tours, on peut se dire que certaines insuffisances, notamment liées à la sécurisation du matériel électoral, à la sécurisation à la fois des électeurs, ont été boostées de manière significative par l'État central du Mali. Ça, ce sont des discours, mais il faut quand même le rappeler. Il y a quand même des localités, Dr Sango l'a bien rappelé, qui ont toujours été déshéritées par ce processus électoral depuis le premier tour, des localités telles que une partie de Iwaru, une partie d'Ansongo, Al-Mustraf, ce sont quand même de localités jusqu'ici où l'État peine à asseoir sa légitimité du point de vue sécuritaire. Mais s'agissant justement de l'aspect sécuritaire de ces élections législatives, il faut quand même le rappeler, est une des raisons évoquées par un certain nombre d'observateurs pour le possible report de ces élections législatives. À cela s'ajoute également cette pandémie du Covid-19 qui s'est également invitée dans la danse. Mais parallèlement à cela, ce qui est important lorsqu'on évoque ces élections législatives dans le contexte malien, c'est de questionner les différents points de vue qui se sont exprimés de la veille du premier tour à aujourd'hui. Lesquels points de vue me paraissent quand même aussi importants, les entendre, à les analyser avec attention. Un nombre important de Maliens continue à estimer que ces élections devaient être reportées pour des raisons liées à l'insécurité grandissante, pour des raisons liées surtout à cette pandémie qui continue à se propager avec une vitesse étonnante. C'est un argumentaire qui reste légitime du point de vue analytique, mais cela également, il faut aussi quand même le rappeler, même ceux-là qui étaient contre la tenue de ces élections ont quand même pris part. Ça, c'est important à le rappeler. On a aussi une frange de partie des populations qui estime que ces élections se tiennent ou pas pour des raisons liées à l'insécurité ou des raisons liées à l'urgence sanitaire, effectivement. Aujourd'hui, dans le contexte malien, en toute objectivité, on ne sait pas quand la fin de l'insécurité. Faut-il attendre 10 ans? Faut-il attendre 20 ans pour tenir les élections législatives? Est-ce que faut-il aussi attendre 2 mois, voire 6 mois, pour arriver au terme de cette pandémie? Donc, c'est pour vous dire que, au-delà des incertitudes, au-delà des craintes objectives, il faut quand même être aussi réaliste. On peut parler du report dans un état normal. On peut parler du risque de propagande de l'urgence sanitaire dans un état normal. N'oublions pas quand même que, de 2012 à aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation très délétère. Mais c'est fait, à mon entendement.
Est-ce que cela veut dire que vous validez la tenue de ces élections?
Je pense qu'il faut raisonner en termes d'utilité. Est-ce que le report des élections pour des raisons liées à l'insécurité ou celles liées à cette pandémie de Covid-19 arrangerait-elle le Mali ou c'est son report qui arrangerait davantage? Je pense que lorsqu'on s'interroge en termes d'utilité, pour qu'il connaît quand même que le mandat des députés avait été prorogé à 2 reprises, il faut quand même le rappeler, et dans le même temps, cette incertitude qui plane autour de la légalité et même de la légitimité des députés
de l'Assemblée nationale. Et on va y revenir tout à l'heure. On va demander à Mamoudou Bokoum, journaliste à la radio Kaoural de Mopti. Vous êtes à Mopti. Comment s'est déroulé le second tour des élections législatives dans la région?
Le second tour au niveau de la région de Mopti s'est déroulé de façon un peu morose à cause de l'insécurité et de la maladie à coronavirus. Quand tu prends la région de Mopti tout entière, prenons d'abord au niveau du cercle de Mopti, sur les 602 bureaux de vote, 24 n'ont pas été ouverts, alors qui sont répartis comme suit. À Kona, il y a eu 7 bureaux qui n'ont pas ouvert, 10 à Salsalvé, Soukoura, 6 bureaux non ouverts, Djaloubé 6. Alors, dans la commune de Salsalbé, il y a même un président des bureaux de vote du village de Ouromodi qui aurait été enlevé. Donc, nous avons reçu l'information et nous l'avons vérifié. Effectivement, le président a bel et bien été enlevé. Donc, à Bayangara, sur les 53 bureaux du cercle, seuls 55 ont ouvert, mais les communes de Louelgeou, Doukombo, Borko et une partie de Timiniri n'ont pas pu ouvrir leur bureau de vote. Quand on va du côté du Séno, notamment à Bankas, et pas de vote à Baye et une partie de Wenkoro, mais à Bankasville, il y a eu vraiment de la mobilisation selon les informations que nous avons recueillies ça et là. Maintenant, à Koro, il n'y a pas eu de vote à Diankabou, mais Koro, Dinanguru et certains villages ont pu quand même effectuer le vote. Au niveau du delta intérieur du Niger, notamment à Temenku, dans la commune de Djaka, les urnes de 3 villages auraient été détruites. Il s'agit du village de Tchal, de Djakouri et de Kourou. Donc le village de Téléma aussi a fermé ses portes à partir de 16h à cause de la peur de l'attaque des hommes en armes. Quand on vient du côté de Douanza, il y a eu vraiment des votes à Douanza, à Ngouma et à Boni. Mais il y a eu un incident qui a été signalé à 3 km de Douanza, notamment à Fombouri, où des hommes d'Onzo auraient empêché le vote à un moment où le vote a été stoppé. Mais heureusement, ça a repris dans l'après-midi selon les informations que nous avons eues. Maintenant, à Yuaru, où seulement 15 bureaux de chefs-lieux de secteur ont voté. Donc, il y a eu un incident où des agents électoraux ont été mis à la disposition de la gendarmerie pour avoir été pris en flagrant délit de bourrage d'urne au compte de la circonscription électorale de Aka, où le vote n'a pas eu lieu. Voilà en gros ce qui s'est passé au niveau de la région de Mopti. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas à Mopti ici et dans d'autres localités, les dispositions sanitaires ont été prises pour contrecarrer un peu la maladie à coronavirus. Notamment, il y avait des kits de lavage de mains à l'entrée de l'ensemble des centres, en tout cas des votes que nous avons pu visiter et des informations qui nous est parvenues. Alors, par rapport maintenant à l'affluence, vraiment, en tout cas, jusqu'à 17h30, au moment où on quittait certains centres, l'affluence était très timide. Il y avait plus de mobilisateurs que d'électeurs, en tout cas dans les différents centres de la circonscription électorale du cercle de Mopti Mahamoudou Touré.
Dans ce contexte, quel est l'avis de la population sur la tenue de ces élections? Est-ce que la population à Mopti pense que ces élections, il était utile de les tenir?
Bon, au niveau de la population de Mopti, il y a deux tendances. D'abord, il y a une tendance qui pense que la santé des citoyens n'est pas primordiale pour les autorités. De l'autre côté, il y a quand même une partie vraiment qui aspire au changement. Et c'est pourquoi, avec les deux finalistes, chacun, à travers ses alliances, est sorti massivement. C'est pourquoi je vous dis qu'il y avait plus de mobilisateurs que d'électeurs. Donc, ajouter à cela, il faut les signaler, hein, c'est des cas sociaux qui sont vraiment fréquents à Mopti ici. Il y a beaucoup de défaits dans certains quartiers. Donc, ça a pu également, selon un président du bureau de vote avec qui on a échangé, pour lui, il y a eu beaucoup de cas de défaits dans un quartier. C'est pourquoi dans son bureau de vote, il y a moins de... Et la plupart vraiment des membres de ce quartier, des habitants de ce quartier, doivent voter dans son bureau. Et c'est pourquoi il a reçu un faible taux de participation. Donc, il y a ces deux tendance là, mais la majeure partie vraiment craint la maladie à coronavirus. C'est pourquoi il n'y a pas eu trop d'engouement autour de ces élections, en tout cas au niveau de Mopti.
Docteur Ibrahima Sango, Bamoudou Bokoum vient de citer quelques localités au centre du Mali. Si vous avez d'autres localités qui n'ont pas été soulignées, et au nord du pays également, il paraît qu'il y a plusieurs localités où il n'y a pas eu de vote.
Bon, ce que nos observateurs ont relevé, c'est que à Talata et à Ouattagouna, dans le cercle de Arsongo, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote dans la commune de Gabiro aussi, ça c'est dans le cercle de Gao. Et sinon, le Dugouradji, la commune de Tchenkour, ça c'est dans le cercle de Diré, il n'y a pas eu de vote. Et puis à Gossi et à Djoura, dans le cercle de Gourmaroulous, région de Tombouctou, il n'y a pas eu de vote. Donc ça, c'est les quelques cas qui nous ont été confirmés, où il n'y a pas eu du tout de vote.
À Gossi, il paraît que les bulletins même ont été brûlés.
Oui, Gossi à Djoura, les bulletins ont été brûlés la veille, c'est-à-dire le samedi, les matériels électoraux ont été brûlés, mais l'administration quand même a pris les dispositions pour remplacer les matériels. Mais même avec tout ça, il n'y a pas eu du tout de vote dans ces localités.
Quel est l'avis du COSIM par rapport à la tenue de ces élections? Était-ce utile?
Bon, à notre avis, c'était utile, parce que, comme le dit Dr Ali tout de suite, il y a eu deux reports par rapport aux élections et c'était pour régler le problème de la sécurité qui se posait, l'insécurité qui se posait davantage dans le centre et dans le nord du pays. Et un premier report de 6 mois, après un deuxième report de 11 mois, mais on a vu que l'aspect sécuritaire allait en s'aggravant. Il n'y a pas de solution à cette affaire sécuritaire. Est-ce qu'il fallait attendre 10 ans encore pour organiser les élections législatives? Je ne crois pas. Et ensuite, le dialogue national qui avait planché sur en décembre 2019 avait dit qu'il faut organiser les élections législatives dans un court terme. Donc c'est ce qui a fait que le gouvernement s'est engagé à organiser les élections législatives, bien sûr avec les 147 députés. Donc ça veut dire souvent la loi organique qui autorise l'élection des députés avec 147 sièges. Et ça, c'est le recensement administratif de 1996 qui a déterminé le nombre de députés. Aujourd'hui, on pouvait dire le Mali a 20 millions d'habitants. Il fallait réfléchir pour aller à 300 députés au moins, pour qu'on puisse organiser les élections. Mais comme les autorités et les pouvoirs publics ont voulu mettre en avant l'organisation des élections avec les 147 députés avant d'entamer les réformes institutionnelles et électorales, donc on est parti avec ça. Mais pour nous, il est nécessaire de légitimer l'Assemblée nationale, d'avoir une Assemblée nationale légale et légitime. parce que tous les 10 reports, c'est contre la Constitution, c'est contre la loi électorale en vigueur en République du Mali.
Certains observateurs ont également dénoncé les achats de conscience auxquels des électeurs ou même les citoyens ont fait face dans certains bureaux de vote à Bamako comme à l'intérieur du pays. Qu'en est-il?
Ça, c'est sur l'ensemble des 43 circonscriptions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'achat de conscience. Il y a eu des achats de conscience partout, que ce soit à Bamako, à Sikasso, à Mopti, que ce soit à Boflabé, à Koulikoro, à Kolokani, à Bougouni. Dans l'ensemble des 43 circonscriptions électorales, on a vu qu'il y a l'achat de conscience, parce qu'il révèle beaucoup de formes. Vous savez, il y a le mois de Ramadan qui s'approche. Il y a certains leaders politiques qui ont profité pour dire qu'on va donner du sucre aux imams à l'approche du Ramadan, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur. Tout ça, c'est pour ça de l'achat de conscience. Et la loi électorale est claire en cela, l'article 113 nouveau qui dit qu'il est interdit de procéder à des distributions d'argent ou bien de céréales ou bien de riz ou bien de toutes sortes de cadeaux pour influencer les votes. Mais ça a eu lieu. Ça a eu lieu, mais la loi aussi dit que la CENI doit veiller à ça. Non seulement la CENI, mais le développement du ministère de l'administration territoriale, que ce soit les préfets, les sous-préfets et les gouverneurs, qui doivent veiller à ce que la loi soit respectée. Ensuite, il y a le ministère de la Sécurité aussi qui est là, qui doit veiller à ce que la loi soit respectée. Mais au vu aussi de tout le monde, il y a eu de l'achat de conscience et personne n'a parlé. Et donc ça, c'est une faiblesse du gouvernement par rapport à...
Est-ce que vous, les observateurs, vous signalez ça à ces différentes structures qui sont censées appliquer la loi pour que ça ne se fasse pas?
Bien sûr, on le signale durant la période préélectorale. D'abord, quand la campagne était ouverte, on a fait un rapport qu'on a mis à la disposition des autorités concernées. Et aussi le jour du vote. Aujourd'hui, par exemple, on a fait 4 communiqués pour montrer comment le scrutin se déroule sur l'ensemble du territoire national. Donc c'était aux autorités. Et la CENI surtout, parce que la CENI a un délégué dans chaque bureau de vote. C'est-à-dire que la CENI a plus de moyens pour contrôler, pour voir si la loi électorale est respectée dans son intégrité sur l'ensemble du territoire. Parce que seule la CENI a l'obligation d'avoir un délégué dans chaque bureau de vote en République du Mali. Et la CENI est présente partout. Et au niveau national, ceux qui composent la CENI au niveau national, les 15 membres, sont aussi des superviseurs régionaux dans chaque région du Mali. Donc ils ont toute la latitude de voir ce qui se fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a déploré lors de notre déclaration préliminaire de samedi, pour dire que la CENI ne fait aucun rapport d'observation. Or, la loi dit que la CENI est chargée de la supervision de toutes les opérations. Donc, si vous êtes chargé de la supervision des opérations, de temps à autre, il faut venir pour dire ce qu'on a vu. Il ne faut pas attendre 3 mois après la disparition de la CENI pour faire un rapport et remettre au président de la République. Mais, en temps réel, faire un rapport d'observation et dire aux gens ce que vous avez constaté ou bien ce que vous avez fait pour l'amélioration et la transparence du processus électoral. Cela ne s'est jamais fait et on l'a toujours déploré.
Docteur Ali Tunkara, quelle est l'utilité donc de ces structures? Puisque sur Facebook, il y a Mamadou Balo qui pose même la question: comment mettre fin à l'achat de conscience des électeurs si les citoyens eux-mêmes sont complices?
Sa question est pertinente, mais je pense que fondamentalement, lorsqu'on parle de l'achat de conscience, ça remet incontestablement en cause la légitimité même du scrutin, et pas la légalité. C'est bien fait de le rappeler. Nulle part de la Constitution, la tenue des élections est liée à l'insécurité ou serait reportée pour des raisons liées à l'insécurité ou à l'urgence sanitaire. Ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, s'agissant de la légitimité, en toute objectivité dans le contexte malien...
Excusez, même s'il y a un risque, un fort risque de contamination lié au coronavirus, les élections doivent se tenir.
Malheureusement, du point de vue légaliste, effectivement, les élections peuvent se tenir quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes. Ça, c'est important à ne pas le confondre à la tenue du référendum qui est effectivement clairement explicite dans les textes fondamentaux de la République. Maintenant, s'agissant de la légitimité effectivement des scrutins, elle est quand même incontestablement remise en cause dans le contexte malien. L'achat de conscience pourrait même nous amener à nous demander, au bout du tunnel, les élections servent à quoi dans le contexte malien? Comment allez-vous compter sur des élus qui ont d'abord procédé par des pratiques à la limite marchandes afin d'accéder au Parlement? Comment allez-vous compter sur des élus, effectivement, lesquels élus vous ont pris pour des marchandises? Donc, pour vous dire que, en se référant d'ailleurs au projet, à la charte des partis politiques, on va se rendre compte que rares des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou qu'ils soient de l'opposition, obéiraient à cette charte. Donc, pour vous dire fondamentalement, dans le contexte malien, les élections ne peuvent aucunement à l'état actuel des choses, nous amener à un état crédible, nous amener à des hommes et des femmes qui soient soucieux du pays qui est de s'enrichir. Donc, en toute objectivité, le scrutin législatif qui vient de s'achever dans le contexte malien a été émaillé par cet achat de conscience, a été émaillé par le trafic d'influence. Il faut quand même aussi le rappeler. Les quelques candidats qui sont fonctionnaires notamment, on a mis du mal à différencier ce qui est des moyens de l'État et ce qui est du privé. Donc tout cela également interroge sur la légitimité de ces élections législatives. À cela également, il faut quand même le rappeler. La complicité des citoyens qui est évoquée par certains, elle est sans appel. Mais moi, je pense fondamentalement, au regard des différentes institutions qui ont été rappelées par le Dr Sango, l'État a tous les moyens légaux à toutes les possibilités aujourd'hui, effectivement, de mettre un terme à ces différentes pratiques non orthodoxes liées aux élections au Mali. Mais sauf que c'est ce même État, notamment à travers les différents acteurs qui l'incarnent, qui sont les préfets, les sous-préfets, et même la CENI, dans sa composition, ce sont ces acteurs eux-mêmes qui sont les premiers corrompus. On ne peut pas les nier dans le contexte malien. On n'a pas besoin d'être un analyste politique, d'être un observateur politique pour se rendre à l'évident. Donc je pense fondamentalement aujourd'hui, les Maliens ne peuvent aucunement compter sur des élections afin d'amorcer les changements. Donc c'est d'où toute l'inquiétude aujourd'hui. Est-ce que le système qu'on a est-il compatible à nos attentes? Est-ce que ce système politique que nous avons hérité du colonialisme dans le contexte malien, n'est-il pas temps de les domestiquer? Parce que quand on regarde quand même cet achat de conscience, des religieux, en passant par des politiques, même des influences qui sont liées aux communautaires, des influences qui sont liés au géographique, naturellement la question de compatibilité entre le système et les attentes des Maliens se pose avec la question. Donc je pense fondamentalement aujourd'hui, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, les députés qui vont être issus de ce scrutin législatif sont des députés, malheureusement, qui sont déshérités du projet de société. Aucun n'a été élu, à ma connaissance, effectivement, à la suite de la base de son projet de société. Donc comment allez-vous trouver des députés à l'Assemblée qui vont se pencher sur des réformes?
Dans ce cas, docteur Ali Koutoukara, si les électeurs sont corrompus, comme vous le signalez, et que des élus soient eux-mêmes également corrompus, même des leaders religieux, certains qui sont également corrompus, la question qui se c'est qui va pouvoir trouver une solution à ce problème?
La solution, elle est radicale, malheureusement. En tout cas, objectivement, on ne peut pas opérer un changement positif au Mali par les urnes. Il faut pas aller avec le dos de la cuillère. Maintenant, quels sont les moyens légaux à utiliser afin d'arriver à un tel changement positif? Moi, je suis très pessimiste pour un possible changement dans un avenir proche dans le contexte malien. Pour qui connaît aujourd'hui le poids de l'argent dans les élections, pour qui connaît aujourd'hui le poids de certaines personnalités religieuses, certaines personnalités coutumières dans les différentes élections au Mali, malheureusement, on est loin quand même du bout du tunnel. Donc je pense fondamentalement, tout Malien aujourd'hui a de quoi s'inquiéter quant à l'avenir même de la démocratie dans le contexte malien. Parce qu'une démocratie déjà, c'est avant tout l'expression de la majorité. Or, la démocratie dans le contexte malien, c'est avant tout l'expression de l'argent. C'est avant tout l'expression des moyens pécuniaires. Vous voyez combien aujourd'hui des leaders religieux, des leaders communautés succombent au charme de l'argent, succombent au charme justement des politiques. Ça, c'est extrêmement grave dans une démocratie.
Alors, Mamoudou Bokoum, à Mopti, où la situation sécuritaire est de plus en plus inquiétante selon des experts, aujourd'hui, est-ce que cet achat de conscience est également une réalité dans cette zone où, selon certains, c'est la zone où les populations aspirent beaucoup plus à la sécurité?
Il y a deux pouvoirs à Mopti hein, par rapport à ces élections. Il y a le pouvoir de l'argent et le pouvoir des armes. Maintenant, là où les hommes en armes ne contrôlent pas, c'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde, on voyait à ciel ouvert les représentants des différentes listes distribuer de l'argent. Et ce qu'il faut vraiment regretter, c'est la population elle-même qui vient se faire corrompre. Parce que c'est elle s'arrête sur sa position, elle s'arrête sur sa position pour dire tant qu'on ne me donne pas de l'argent, je ne vote pas. Et donc, la faute incombe également à la population. Mais c'est fait au vu et au su de tout le monde, et de la CENI, et de la force de sécurité, et de tous les observateurs. Bon, si on voit après les observateurs venir dire que ces incidents mineurs ne peuvent pas influencer sur la légalité ou la légitimité l'organiser d'une élection. Donc, moi, je crois que, quelque part, chacun a sa responsabilité. Et l'État, les observateurs, la CENI et la population elle-même qui vient avec, tu trouveras, parce que tu trouveras une personne, un chef de file qui vient avec une vingtaine de personnes réclamer 2000 francs par personne pour qu'elle puisse mobiliser vraiment ses adhérents à aller voter pour quelqu'un. Donc, la faute incombe à tout le monde. C'est vrai, et les observateurs, ils le signalent, mais il faut qu'ils tapent fort. La CENI est là, tout le monde est là. Donc, vraiment, c'est à ciel ouvert. Maintenant, de l'autre côté, où il y a le pouvoir des armes, là, c'est leur volonté qui est exprimée là-bas. Soit ils votent pour leur candidat, soit ils ne votent pas. C'est ce qui a d'ailleurs causé l'arrêt du vote au niveau du cercle de Douaza, à 3 km, comme je l'ai dit, et à Fombori, où des hommes en armes ont empêché le vote parce qu'ils ont imposé leur candidat. Donc, il y a ces deux pouvoirs qui pèsent aujourd'hui sur les élections au niveau de la région de Mopti. Il faut que chacun s'assume. Et les autorités et les organisations vraiment qui sont là pour veiller au bon déroulement des élections, et surtout la population qui doit vraiment refuser de se vendre comme des poulets. Quand même, 2000 francs, c'est le prix d'un poulet. Vraiment, il faut. Mais en de telles situations, est-ce qu'on peut, reprocher à un candidat élu sur cette base de ne pas pouvoir s'intéresser à nos préoccupations? Moi, je dirais non, parce que lui, déjà, il a fait ce que tu l'as demandé de faire, c'est-à-dire prendre les 1000 francs, 2000 francs pour aller voter pour lui. Le contrat est déjà terminé dès l'instant que tu as pris son argent. Donc, la question de la légitimité se pose avec acuité. Mais bon, la question de la légalité, c'est l'État qui doit vraiment créer tous les instruments juridiques pour trancher cette question.
Alors, docteur Ibrahima Sango, les observateurs également sont pointés du doigt. Malgré ce taux, faible taux de participation que vous avez signalé, ces incidents, notamment l'achat de conscience, est-ce que vous validez ces élections?
Non, nous ne validons pas les élections. Ce n'est pas à nous de valider les élections.
Oui, mais selon
il revient toujours au Mali, c'est la Cour constitutionnelle qui valide les élections, qui donne des résultats. Et à ce propos, je voudrais rappeler qu'au lendemain de la publication des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle, qui a validé tous les résultats, même les urnes bourrées qui ont été relevées par les différents candidats, les différents partis politiques, la Cour constitutionnelle a tout validé. Et deux jours après, à Mopti, le tribunal a condamné deux personnes pour bourrage d'urnes. Donc c'est ça le problème. C'est que les institutions au Mali souffrent de légitimité. Et comme l'a dit le docteur, c'est vrai. Quand on prend de 92 à aujourd'hui, et le taux de participation aux élections présidentielles ou législatives ou communales n'a jamais atteint les 50% de taux de participation. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et le problème, c'est quoi? Et parmi l'un des problèmes, on peut dire qu'il y a la communication électorale.
Mais malgré ces incidents que vous avez signalés, est-ce que selon vous, ces élections, avec ces élections, l'Assemblée nationale peut avoir ses prochains 147 députés, ou est-ce qu'il faut refaire ces élections-là?
Bon, les élections coûtent cher, hein, vous savez, ça coûte cher. Et je vous donne un exemple.
Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir des élus qu'il faut pour les Maliens?
Oui, c'est qu'on voulait qu'il y ait des élus qu'il faut. Quand vous prenez même les 147 députés à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas représentatifs du peuple malien aujourd'hui. C'était en 1996, les Maliens étaient à hauteur de 9 800 000 habitants. On a dit qu'ils ont droit à 147 députés. Aujourd'hui, les Maliens sont plus de 20 millions. Donc on a droit à 300 députés au moins. Ça, les autorités n'ont pas suivi, le pouvoir public n'a pas suivi. Et on dit toujours, le dialogue national l'a dit. Bon, maintenant, le problème fondamental, c'est que la légitimité est réelle. Non seulement pour les députés, mais pour le président de la République, pour les conseillers communaux. Il y a un problème de légitimité. Et le problème fondamental de la démocratie malienne, c'est ça. Quand vous prenez les Maliens, c'est 17% qui sont francophones. Tous les autres, c'est la langue nationale. Mais on ne communique pas dans les langues nationales. On communique seulement en français et quelquefois en bambara, et puis on dit ça suffit. Maintenant, si les populations ne se sentent pas concernées par la République, par la démocratie, et tout ce qu'on vit actuellement en termes de crise sécuritaire et tout, c'est parce que les populations n'ont pas adhéré. Et tout ce qui concerne les pouvoirs publics, les pouvoirs ne jouissent d'aucune légitimité. Que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, il n'y a pas de légitimité parce que les Maliens ne se reconnaissent pas dans les pouvoirs. On pense que c'est des Blancs qui sont là, ou bien c'est des représentants des Blancs qui sont là, qui sont toujours en train de brimer. On n'est pas sorti de la colonisation, on est toujours sous colonisation. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pourquoi on dit la démocratie. Je suis le docteur Ali quand il le dit, la démocratie malienne est en danger. Quand vous voyez tout ce qui se passe, quand vous voyez il y a quelques semaines avant le premier tour des élections législatives, il y a un leader qui était qui était sorti, la population l'a suivi et la République allait s'effondrer. Donc c'est un problème de légitimité de nos élus qui se pose. Et le pouvoir de l'argent est là, le pouvoir des armes est là. Quand vous voyez le premier tour des élections législatives à Kidal, comment comprendre que Kidal, à Kidalville, Kidal vote à Kidalville, et Tine Sako vote à Kidalville, Abeybara vote à Kidalville, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Au lieu de voter sur le site, les cercles supposés être des cercles autonomes et fonctionnels votent à Kidalville. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça, c'est le pouvoir des armes. Donc, dans notre pays, la démocratie est en danger, nous disons en danger. Parce que de 92 à aujourd'hui, on n'a jamais atteint les 50% du taux de participation. Ça veut dire que la population ne se reconnaît pas dans les institutions légitimement. Les institutions ne jugent pas de légitimité, de représentativité, et c'est un problème très profond.
La démocratie malienne est en danger, vous l'avez dit, et Dr Ali Tunkara a estimé qu'à ce stade, il ne voit aucune mesure légale qui pourrait mettre fin à tous ces problèmes que vivent les Maliens. Alors, la question qui se pose, les populations sont aujourd'hui partagées par rapport aux raisons de ce faible taux de participation aux élections. Certains estiment que c'est dû, cette fois-ci, au coronavirus, d'autres pensent que c'est dû à l'insécurité. Alors, je vous demande, est-ce dû au coronavirus, à l'insécurité ou à cause de la déception que certains Maliens éprouvent envers certains élus?
Je vois que les raisons évoquées sont tout à fait légitimes. L'insécurité dans certaines circonscriptions est une évidence. Effectivement, cette pandémie également, elle est également pour l'ensemble du Mali. Mais je pense que cette abstention, si l'on veut la questionner avec objectivité, elle résiderait plutôt à cet écart entre élus, élite de manière générale, et population. Si vous regardez aujourd'hui l'écrasante majorité des Maliens, vous allez vous rendre compte quand même qu'elles n'ont plus foi en l'État. Ces Maliens n'ont plus foi en leur système, si vous voulez, du vote. Moi, je ne vois pas aujourd'hui, dans le contexte malien, un homme et une femme parviennent à être élus sur la base de son projet de société. Nous passons à savoir quand même qu'aujourd'hui, les candidats qui étaient au premier tour ou au second tour, partout ils passaient, les populations, dans leur grande majorité, n'avaient qu'un discours à tenir. Monsieur et madame, si vous ne nous donnez pas notre part aujourd'hui, nous ne savons pas quand nous allons vous rencontrer. Donc, c'est pour vous dire que cette phobie de l'instantanéité, cette ruée vers le gain facile, d'ailleurs provoquée en grande partie par l'élite politique à partir des années 90, il ne faut pas quand même l'oublier, cette non-orthodoxie électorale malienne, elle est quand même née avec la démocratie, il ne faut pas l'oublier. Ces acteurs-là qui se targuent d'être à l'origine de l'avènement de la démocratie dans le contexte malien, ce sont ces mêmes acteurs qui sont les plus faux en termes d'éthique, en termes de morale vis-à-vis du respect de la charte même des partis politiques. Aujourd'hui, si vous regardez un peu, pourquoi aujourd'hui beaucoup de Maliens ne se sont pas rendus aux urnes. Certes, il y a l'urgence sanitaire, certes, il y a l'insécurité gravissime, incontestablement, de 2012 à aujourd'hui, mais je pense clairement que une telle rétention, ou en tout cas une telle abstention vis-à-vis du fait politique dans le contexte malien, serait plutôt liée à cette absence cruelle, en tout cas cette crise de confiance entre élus et population. Vous regardez aujourd'hui le train de vie que mèneraient nos députés, nos élus municipaux, même le président de la République, égard d'ailleurs l'équipe gouvernementale, et les comparer justement ce train de vie à celui de l'écrasante majorité des Maliens, vous allez vous rendre compte qu'effectivement les élus sont en déphasage total vis-à-vis des réalités que vivraient les Maliens dans leur écrasante majorité. Et cela est tout à fait observable tant dans les moyens de locomotion, quand vous regardez les différentes maisons qu'occuperait cette élite politique malienne, si vous regardez justement ces différents moyens de déplacement auxquels cette élite politique malienne fait l'objet, naturellement vous allez vous rendre compte que nous sommes dans deux Mali. Un Mali officiel où effectivement tout roule en faveur d'une ultra-minorité, un Mali réel où on a l'écrasante majorité qui n'est pas pauvre, mais qui vit, qui cette écrasante majorité, dans une misère absolue, j'entends par une misère absolue. Vous allez dans ces différentes localités aujourd'hui, les gens ne cherchent qu'à manger, les gens ne cherchent qu'à boire. Et regardez aujourd'hui le train de vie que mènent nos députés, regardez aujourd'hui le train de vie que mènent une bonne partie de nos ministres. Vous allez clairement vous rendre compte que dans le contexte malien, La démocratie, elle est synonyme de la tricherie. La démocratie, elle est synonyme de la corruption. La démocratie, elle est synonyme justement d'écraser les pauvres, notamment ceux-là qui vivent dans les mondes ruraux. Donc je pense fondamentalement que ceux qui sont censés incarner le peuple malien, je pense qu'ils ignoreraient clairement les conditions réelles et effectives de ces dix peuples maliens. Donc je pense que aujourd'hui, sincèrement, en toute objectivité, l'espoir, il n'est pas maigre, il est quasi absent.
Et on va aller à Gossi, un habitant qui a requis l'anonymat à Gossi où il a été signalé que les élections n'ont pas pu se tenir. Alors quel est le sentiment des habitants de Gossi qui n'ont pas pu voter?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Quel sentiment des habitants de Gossi? Nous avons sûrement un problème de sécurité. Il y a l'insécurité chez nous. Je sais qu'on va dire en un mot.
Alors, le fait de ne pas pouvoir voter, le vote qui est un droit pour eux et un devoir également, qu'est-ce que ça représente pour eux, les habitants de Gossi?
Non, ça représente vraiment un gâchis pour eux parce qu'il y a des gens qui sont déplacés venir parce que, comme des gens, docteur l'a si bien dit, il y a beaucoup de localités aussi qui sont obligées de venir à Gossi. Les gens ont mené leur sensibilisation pour venir à Gossi. Et à leur grande surprise, vers 19h, 20h, et le rumeur coule de gens que vraiment les nécessaires sont brûlés. Et le chauffeur vient brevenir pour faire savoir que tout ce qu'il a est brûlé, que ce soit celui de Gossi et celui de l'URDN. C'est à Diora. Donc aujourd'hui, les gens sont là. Il y a d'autres même qui donnent des faux propositions. Pourquoi ne pas placer les anciens archives et consorts, qu'ils puissent voter pour ne pas venir vite, quoi. Pour ne pas venir inutile.
À votre avis, est-ce que ces habitants vont se sentir représentés par les futurs députés qui seront élus à l'Assemblée nationale?
Non, ils sont carrément découragés parce que, je ne vous mens pas, cette fois-ci, ils ont pris une initiative. Parce qu'ils ont l'intention de voter, même parce qu'il y a quelqu'un qui est nouveau dans la politique qui a pris vraiment une promesse, que les gens croient beaucoup à sa promesse. Et vraiment, c'est devenir le peuple, parce que tout le monde s'attendait vraiment à cette vote, et c'est une vote qui finisse comme ça. Et les gens commencent dans les rumeurs, le chuchotement, pourquoi ne pas envoyer les choses avant le jour J, mais la veille même des votes, on envoie. Mais si c'est que c'est avant le jour J, les gens vont prendre des précautions pour avoir d'autres.
Merci beaucoup, monsieur l'habitant de Gossi. Je rappelle que vous avez requis l'anonymat. Et on va écouter maintenant le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a voté ce matin à Sébenikoro au marché et qui a fait des déclarations par rapport notamment à la tenue de ces élections, mais également à la situation de l'épidémie à coronavirus qui sévit dans le pays.
Je souhaite que ce soit une belle journée électorale, qu'au sortir, nous nous retrouvions avec un Parlement bien installé et que surtout, ce soit une journée de victoire sur le coronavirus, le Covid-19. Pourquoi j'exhorte beaucoup au port du masque? Nous ne pouvons pas confiner les Maliens, nous ne pouvons pas bloquer les Maliens à la maison, les condamner à la mort par la faim. Nous avons le devoir de les protéger et je souhaite que chacun comprenne. Le masque protège, il faut le porter. Pour vous, pour vos enfants, pour vos familles et pour nous autres aussi. Chacun a le devoir de protéger l'autre. L'État a le devoir de protéger tout le monde. Et c'est ce qu'il a conseillé de faire et ce qu'il fera. Et en ce moment précis, j'ai une pensée pour mon frère Soumaïla Cissé, qui est dans des conditions que nul n'aurait souhaité. Hélas, et je voudrais prier ceux qui le détiennent de faire en sorte que ceux qu'ils professent, ceux qu'ils disent, correspondent à leur humanité réelle et qu'ils libèrent notre frère aujourd'hui. Nous le souhaitons de toute notre âme.
Alors, on va parler un peu de coronavirus également, puisque le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'a abordé. Nous ne pouvons pas confiner les Maliens pour ne pas les condamner à mourir à cause de la faim. Quel est votre avis par rapport à cette déclaration, docteur Ibrahim Sango?
Bon, nous partageons le même avis, hein, parce que quand vous voyez aujourd'hui les marchés, quand vous voyez les mosquées, c'est difficile. C'est difficile de confiner les Maliens aujourd'hui. Parce que quand vous voyez les Maliens, lambda, il y a beaucoup de gens qui disent oh, il faut confiner, mais les Maliens lambda, ils sortent aujourd'hui pour chercher ce qu'ils doivent manger demain. Et ils font le porte-à-porte, ils voient les amis, mais quand vous dites personne ne bouge, il faut pouvoir trouver quelque chose à donner aux gens. pour qu'ils soient confinés. Et nous ne sommes pas comme les pays européens où les gens peuvent prendre des provisions d'un mois, de deux mois, se confiner, il n'y a pas de problème. Mais au Mali, ici, ce qu'on mange demain, c'est aujourd'hui qu'on sort pour le chercher et c'est très difficile de confiner les gens.
Mais est-ce qu'en cas de confinement, si le gouvernement le décidait, avec la tenue de ces élections, les populations allaient même respecter ce confinement, cette mesure?
Bon, le problème fondamental aussi au Mali, c'est que est-ce que tout le monde croit au coronavirus? C'est un problème fondamental qui se pose. Parce que quand vous voyez les mariages, quand vous voyez les baptêmes, quand vous voyez les décès, les gens qui sont là rassemblés, et quand vous voyez les marchés, vous voyez les mosquées, vous voyez les sotramas, les taxis, les gens ne croient pas tellement au coronavirus. Donc il faut que ici aussi la communication puisse être faite de façon inclusive, qu'on puisse parler à tous les Maliens.
Parce qu'on n'est pas en train de parler. Certains estiment que ce sont les autorités elles-mêmes qui ne montrent pas le bon exemple, à travers notamment la tenue de ces élections, même avec l'épidémie à coronavirus qui sévit dans le pays.
Nous ne sommes pas de cet avis parce que, élection ou pas, les Maliens ne sont pas en train de respecter les mesures face au coronavirus. Je vous ai dit, les marchés sont toujours pleins. Et ça, c'est les gens qui sont à côté. Il n'y a pas de respect de distanciation de 1 mètre, il n'y a pas les ports des masques et tout ça. Et pour les élections, d'ailleurs, à République du Mali, comme on l'a dit, le taux de participation, ça n'a jamais été atteint les 50%. Donc le fait qu'on ait eu 35% au premier tour, c'est moins que le 2013 et 2007. Mais en 92, c'était 21%. En 97, c'était 21%. En 2002, c'était 23%. Donc en 2007, ça atteint les 35%. Et en 2013, le taux de participation législative atteint les 39%. Mais jamais le taux de participation au Mali n'a atteint les 50%. Donc le fait qu'on ait eu au premier tour 35% de taux de participation est déjà louable par rapport à ça. La participation aux élections, on a dit, il y a des raisons. Il y a l'insécurité, il y a le coronavirus, mais aussi il y a le divorce entre les citoyens et les partis politiques. Parce qu'après le 2018, l'élection présidentielle, il y a eu le divorce entre l'opposition et la majorité qui ont toujours refusé de s'asseoir pour parler ensemble. Et on a vu, avec les élections législatives, ils sont sur la même liste électorale. Donc cela aussi déboussole les citoyens pour dire ces partis politiques, quand c'est leur intérêt, ils se mettent ensemble. Mais quand il s'agit de l'intérêt du Mali, ils ne se mettent pas ensemble. Donc tout ça, c'est des raisons. Donc ce n'est pas seulement à cause du coronavirus que le taux de participation peut être bas ou pas.
Docteur Ali Tunkara, certains estiment qu'après la tenue de ces élections, le taux de contamination à coronavirus va augmenter au Mali. Alors, à travers cette déclaration du président de la République, est-ce une manière de préparer les Maliens à ce qui peut les attendre par rapport à cette augmentation du taux de contamination?
Non, je pense que l'hypothèse du confinement, le président de la République il a été quand même très objectif. Hein. Confiner les Maliens, c'est les pousser à assister à leurs propres funérailles, du point de vue même nutritif, du point de vue même de la gestion du quotidien. Mais maintenant, est-ce que peut-on, de facto, établir un lien de cause à effet entre la tenue de ces scrutins et la propagande du virus, du coronavirus? Je pense que le lien n'est pas évident à l'établir. Mais fondamentalement, Dr Sango a bien fait de le rappeler, si vous regardez nos différentes retrouvailles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles ou religieuses, ce sont quand même des retrouvailles qui sont de nature à encourager la propagande, effectivement, de ce coronavirus. Donc, il ne faut pas, surtout, s'efforcer à établir un quelconque lien entre la propagande et la tenue de ces scrutins législatifs. Ne confondons pas, surtout, la légalité et la légitimité. La légalité, elle est sans appel, mais c'est vrai que la légitimité, elle est quand même objective. La légitimité, elle est même subjective. Parce que vouloir aujourd'hui attendre une fin irrévocable à l'insécurité, une fin irrévocable, justement, à cette pandémie pour la tenue de ces scrutins législatifs, c'est pour attendre 10 ans, voire 20 ans pour le cas de l'insécurité.
Merci docteur Ali Tunkara et nous ne pouvons clore ce débat sans pour autant rappeler quelques-unes des mesures et gestes qui sont donnés par les autorités sanitaires pour se protéger contre le coronavirus qui est entre autres d'éviter de se serrer les mains et de respecter une distance d'un mètre et de ne pas se regrouper au-delà de 50 personnes. Le Grand Dialogue s'intéressait aujourd'hui au second tour des législative 2020 au Mali, quel enseignement a tiré? Et nos invités, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, Dr Ali Tunkara, sociologue, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Mamoudou Bokoum, journaliste à la radio Kaoural de Mopti, un habitant de Gossi qui est intervenu et qui a requis l'anonymat. À la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta et Peting Diara, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi? Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri,
Haloud Mouni.
Chenni Beri, Zika Foba.